VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition spéciale de VOA Afrique à l'occasion de la présidentielle américaine. C'est en effet aujourd'hui, mardi 8 novembre 2016, qu'après une très longue et houleuse campagne, les électeurs américains trancheront entre la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump. Au micro, Idrissa Sedoudia. Les 7 électeurs de Dixville Notch, dans les confins du nord-est des États-Unis, ont lancé symboliquement l'élection présidentielle en votant dans la nuit de lundi à mardi, quelques instants plus tard et en tenant compte d'un vote par procuration, le greffier annonçait les résultats. Tenez-vous bien, la candidate démocrate Hillary Clinton a remporté 4 voix, son opposant républicain Donald Trump 2 voix et le candidat indépendant Gary Johnson 1 voix. Un vote a en outre été annulé, car comportant le nom écrit à la main de Mitt Romney, candidat républicain battu en 2012 par Barack Obama. Voilà pour Dixville Notch. D'ici ce soir, si tout se passe comme prévu dans l'ensemble du pays, les Américains sauront qui, d'Hillary Clinton ou de Donald Trump, sera le 45e locataire de la Maison-Blanche. Et les sondages publiés hier étaient serrés, même s'ils donnaient un léger avantage à la candidate démocrate Jacques Aristide.
Après Barack Obama, premier président africain-américain des États-Unis, Hillary Clinton espère entrer dans l'histoire, elle aussi, en devenant la première femme à occuper le bureau ovale. Si elle est élue, la démocrate de 69 ans dirigera dans la continuité du président Obama. Elle a vu disparaître avant-hier la menace de poursuite dans l'affaire de ses emails et son utilisation d'un serveur privé quand elle était secrétaire d'État. Un soulagement même tardif pour sa campagne qui culminait hier avec 2 États. En Pennsylvanie, une dans le Michigan et un tout dernier meeting en Caroline du Nord. Pour son meeting en Pennsylvanie, elle était rejointe par Barack et Michelle Obama, son mari Bill Clinton et leur fille Chelsea, également sur scène les chanteurs Bruce Springsteen et John Bon Jovi.
Oui, Jacques, à Philadelphie, Hillary Clinton a de nouveau fustigé le comportement de son rival républicain sans le nommer.
At the end of the last debate. After he has insulted everyone.
À la fin du dernier débat, après avoir insulté tout le monde, plus de la moitié de la population, en passant les immigrants, les Africains-Américains, les Latinos, les prisonniers de guerre, les musulmans, les femmes, il a lancé une attaque contre notre démocratie en refusant de dire si oui ou non il accepterait le résultat de l'élection. Eh bien demain, démontrons qu'il n'y a pas de doute sur le résultat de cette élection.
Well, let's show tomorrow there will be no question about the outcome of this election.
Quant à son rival républicain Donald Trump, il a lui capitalisé sur la colère et les frustrations de certains Américains, inquiets de la mondialisation et des changements démographiques. Il a promis des solutions simples à tous les problèmes complexes. Il a été critiqué pour ses propos jugés insultants sur les femmes, les Mexicains, les Africains-Américains et les musulmans. Il a attaqué son adversaire sans relâche, qu'il a surnommé Hillary la crapule. Pour clore sa campagne, le milliardaire a fait le déplacement hier en Floride, Caroline du Nord, Pennsylvanie, dans le New Hampshire et le Michigan, pour un dernier meeting cette nuit.
Hillary Clinton should not even be allowed to run for the presidency of the United States.
Hillary Clinton ne devrait même pas avoir le droit d'être candidate à la présidence des États-Unis. Elle ne devrait pas avoir le droit. C'est une honte et notre pays est la risée du monde entier. Ce qui se passe avec notre justice, c'est la risée du monde entier. Eh bien, vous savez ce que vous pouvez faire? Allez voter demain. C'est ce que vous pouvez faire, c'est le seul moyen.
Les deux candidats ont le même objectif, grappiller la moindre voix qui pourrait faire basculer à leur profit les États décisifs. Le dernier sondage Quinnipiac donnait hier les deux adversaires au coude à coude, en Caroline du Nord et en Floride, ce dernier État pouvant à lui seul décider de la présidentielle s'il était perdu par Donald Trump. Au niveau national, Mme Clinton était à 44,9% des intentions de vote contre 42,7% pour M. Trump, d'après la moyenne des plus récents sondages établis par Real Clear Politics. Les Américains, dont 82% se disaient dégoûtés dans un récent sondage, n'attendaient eux plus que la fin de cette longue campagne entre deux candidats historiquement impopulaires. 50% n'aiment pas Mme Clinton, 62% M. Trump, marqué par les insultes, les scandales et les révélations de caniveaux.
Merci Jacques Aristide. Donc, les Américains se rendent aux urnes aujourd'hui pour élire le successeur de Barack Obama. Des dizaines de millions d'électeurs ont déjà usé du vote anticipé autorisé dans nombre d'États. Alors, pour les autres, les bureaux s'ouvrent tôt ce matin et ferment à partir de 19h dans plusieurs États de l'Est et du Centre. Jean-Roger Bion.
Bien entendu, toute l'attention est retenue par la course particulièrement dure entre la démocrate Hillary Clinton et le populiste républicain Donald Trump. Mais pour gouverner, celui ou celle qui gagnera aujourd'hui devra traiter avec le Congrès qui tient les cordons de la bourse et peut aider à faire avancer l'agenda présidentiel ou le bloquer en faisant de l'obstructionnisme. Actuellement, le Congrès est totalement contrôlé par les républicains qui ont donné du fil à retordre à Barack Obama. On saura aujourd'hui s'il y aura ou non des changements à ce niveau. En tout état de cause, un tiers des 100 sièges du Sénat doit être renouvelé, en même temps que ceux de la Chambre des représentants, soit la totalité de ses 435 sièges. Des postes de gouverneurs seront aussi en jeu dans plusieurs États. Pendant la campagne, le républicain a plusieurs fois dénoncé ce qu'il a appelé le système truqué d'avance en faveur de l'élite et de l'establishment qu'il dit combattre au nom des petites gens. C'est ainsi que M. Trump en est arrivé à demander à ses partisans de surveiller aujourd'hui le déroulement du scrutin. Le Parti démocrate de l'Ohio, un des États incontournables pour la victoire, a réagi en demandant à son tour à la Cour suprême des États-Unis la validation d'une injonction interdisant aux partisans de Donald Trump certaines actions susceptibles d'intimider les électeurs lors du scrutin présidentiel. La plus haute instance judiciaire du pays a rejeté cet appel. Après une campagne qui a particulièrement divisé les États-Unis, des milliers d'observateurs indépendants et défenseurs des droits civiques seront déployés mardi pour dissuader d'éventuelles actions déloyales dans les bureaux de vote. Le ministère américain de la Justice a de son côté annoncé hier qu'il dépêcherait plus de 500 personnes dans 28 États pour y observer les opérations de vote. Les associations redoutent des actes rappelant les piéseurs, des intimidations visant les Noirs, notamment dans le Sud, anciennement ségrégationniste. Les Africains-Américains et les Hispaniques penchent majoritairement du côté démocrate et donc d'Hillary Clinton.
Merci Jean-Roger. Maintenant, voyons qui sont les deux candidats qui s'offrent aujourd'hui au choix des électeurs américains. D'abord, la démocrate Hillary Clinton avec Lionel Gahima.
Hillary Clinton a failli remporter les élections de 2008 après une campagne acharnée et a dû renoncer à ses ambitions face au jeune sénateur Barack Obama. Lors de son discours de concession, elle a parlé de sa lutte pour aider les femmes à surmonter les obstacles parfois appelés le plafond de verre.
Bien que nous ne sommes pas en mesure de briser ce plafond cette fois-ci, grâce à vous, ce plafond a maintenant 18 millions de fissures. Et la lumière brille à travers comme jamais auparavant. Cette lumière nous remplit d'espoir et de certitude que le chemin sera un peu plus facile la prochaine fois.
8 ans plus tard, Clinton a remporté la nomination et espère briser le plafond de verre ultime pour devenir président. Fille d'un père républicain, la petite Hillary est tombée dans la politique à cause de sa mère démocrate. Adolescente, Hillary était républicaine. Elle a étudié à Wesley College. Elle est devenue plus engagée politiquement. Elle a aussi fréquenté les bancs de Yale Law School où elle est devenue une démocrate progressiste. C'est là où elle a rencontré son futur mari, Bill Clinton. Ils se sont mariés en 1975 et elle l'a suivi dans son état de Arkansas, où il a été élu gouverneur en 1978. C'est ici que Ron Fournier a couvert la famille pour la première fois. Il a fréquenté le couple à Little Rock et plus tard à la Maison Blanche.
Bill Clinton's very good about relating a joke.
Bill Clinton a un très bon sens de l'humour. Elle en a aussi. Elle a de l'autodérision. Cet humour qui plaît à beaucoup de gens.
L'ancien porte-parole de Bill Clinton à la Maison Blanche, Bob Weiner, nous raconte que Hillary fait preuve de beaucoup plus d'intelligence quand il s'agit de résoudre des problèmes et trouver des solutions que Bill Clinton ou le président Barack Obama, mais elle n'a pas quelque chose qu'ils ont.
Elle sait qu'elle n'a pas le charisme, mais elle a l'intelligence et le pouvoir, ce qui est énorme.
Bill Clinton a été élu président en 1992. Il avait dit que les États-Unis s'étaient offert deux présidentes pour le prix d'un. Hillary était une première dame très politiquement engagée. Elle a mené plusieurs combats, mais elle a perdu celui du programme de la santé universelle. À la Maison-Blanche, les rumeurs persistantes des infidélités de Bill, le scandale sexuel de Monica Lewinsky, l'humiliation publique qu'a dû subir Hillary, l'a beaucoup affectée.
Elle a changé à cause de tous ces tracas. Elle est devenue plus dure à cause des multiples obstacles auxquels elle a dû faire face.
Les mois qui ont suivi, le scandale était des moments douloureux, mais le mariage a survécu.
Ils essayent de faire face à leurs échecs conjugaux en privé. Je peux vous dire que je les ai fréquentés et ils s'adorent.
Hillary a tout fait pour survivre à cette période, forgeant sa propre carrière politique. Elle a remporté l'élection à New York pour le Sénat des États-Unis en 2000 et a été réélue en 2006. En 2008, Obama l'a nommée son secrétaire d'État. Elle a visité 112 pays et a utilisé son travail pour mettre en exergue les droits des femmes et le pouvoir de la diplomatie surnommée « soft power ». Maintenant, Hillary Clinton se trouve dans le combat politique de sa vie, la course à la Maison-Blanche le 8 novembre.
Maintenant, avec Michel Joseph, le portrait de Donald Trump, 70 ans.
Durant cette saison électorale, aucun candidat n'a autant surpris l'électeur américain que Donald Trump. Né dans le Queens, à New York, il était le quatrième de cinq enfants.
Son père était très autoritaire, très exigeant. Il était le boss. Et bien sûr, Donald a hérité de ses traits et caractéristiques.
En 1968, Donald Trump est sorti diplômé de la prestigieuse école des finances, The Wharton School. Avec son père, impliqué dans des projets de construction dans le Queens et Brooklyn, Donald a jeté son dévolu sur le quartier East River de New York. Trump avait cultivé des contacts d'affaires de son père. Avec son soutien, Trump a mis en place sa propre entreprise avec un investissement $1 million.
New York est le plus grand marché de l'immobilier dans ce pays. Et Trump est un entrepreneur moyen. La plupart des gens se disaient qu'il était un succès médiocre. Il a eu quelques succès, mais il a aussi eu quelques échecs.
Dans les années 1970, le ministère de la Justice a accusé la société de Trump de violer la loi sur l'égalité dans l'immobilier, puisqu'il avait empêché les minorités de louer dans ses bâtiments. Trump a réglé l'affaire à l'amiable. Il est peut-être mieux connu pour la Tour Trump, un complexe de $200 millions et des boutiques de vente au détail, 6 niveaux, atrium, 58 étages et une chute d'eau de 18 mètres. Trump est également connu pour la construction de casinos à Atlantic City, dans le New Jersey. D'abord Trump Plaza, puis le château de Trump, ensuite le Taj Mahal, qui coûte près $1 milliard et qui a finalement fait faillite. Lorsque le marché de l'immobilier a chuté en 1990, la valeur de son empire est passée de $1.7 billion à $500 millions. Il a emprunté de l'argent et a trouvé de nouveaux investisseurs pour éviter la faillite. Son émission de télé-réalité The Apprentice a fait de Trump une star. Les participants faisaient la compétition pour être des gestionnaires dans l'empire Trump.
You're fired.
Trump a été payé plus de $200 millions pour cette émission. Trump a montré publiquement son intérêt pour la politique la première fois à la fin des années 80. Il a rejoint le Parti réformiste, le Parti démocratique, puis est devenu indépendant.
I am officially running for president of the United States.
Le candidat Trump a multiplié des déclarations controversées.
Lorsque le Mexique envoie ses gens, ils n'envoient pas les meilleurs. Ils envoient des gens qui ont beaucoup de problèmes et ils nous apportent ces problèmes. Ils viennent avec la drogue, ils viennent avec des crimes. Ils sont des violeurs et quelques-uns, j'imagine, sont de bonnes personnes.
Sa solution controversée, construire un mur à la frontière des États-Unis. Ensuite, Trump a appelé à une interdiction d'entrée des musulmans aux États-Unis suite à une attaque terroriste en Californie.
Voilà pour la partie élection de cette édition spéciale. Restez à l'écoute de VOA Afrique pendant toute la journée et demain matin. Vous pouvez aussi suivre le déroulement de la présidentielle de ce mardi 8 novembre 2016 sur voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le reste de l'actualité, tout d'abord, la Minute Écho avec Nathalie Barge.
La Chine a accordé au Bénin un prêt de 150 milliards de francs CFA pour les travaux du barrage hydroélectrique d'Adjarala confié à Sinohydro Africa. Le barrage est un projet commun au Bénin et au Togo. Ce financement vient s'ajouter aux 36 milliards de francs CFA obtenus en mai par le Togo. Le coût global des travaux est estimé entre 275 et 300 milliards de francs CFA. Lancement de la phase finale du prix de l'entrepreneuriat africain à Casablanca. 37 finalistes de 22 pays africains ont été retenus pour participer à une formation du 1er au 4 décembre. Le prix récompense des projets dans les secteurs de l'éducation, l'environnement et les domaines inexplorés. L'an dernier, 10 entrepreneurs de 8 pays africains se sont partagés 1 million de dollars. Le procureur général du Mozambique a désigné la firme américaine Kroll pour auditer la dette du pays après la découverte de l'existence de 2 milliards de dollars d'emprunts cachés. Kroll va auditer Mozambique Tuna Company, le gestionnaire portuaire Pointicus et Mozambique Asset Management. Selon le FMI, la dette publique du Mozambique devrait atteindre 130% du PIB en 2016 contre 86% en 2015.
Les sports à présent avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Le footballeur Cristiano Ronaldo prolonge avec le Real Madrid.
Oui, le Galactique a prolongé jusqu'à ses 36 ans avec le Real Madrid. Il jouera donc avec le club jusqu'en 2021 et il a assuré qu'il s'agissait de son avant-dernier contrat et qu'il compte bien jouer encore pendant 10 ans. C'est un jour spécial pour moi, j'ai un lien avec le Real Madrid, c'est le club qui est dans mon cœur et c'est un moment unique dans ma vie, a déclaré le joueur portugais. Je veux continuer à faire partie de l'histoire, a ajouté le meilleur buteur absolu du Real Madrid avec 371 buts en 360 matchs.
On reparle d'Haïlé Gebrselassie, la légende éthiopienne de l'athlétisme.
Le légendaire coureur, aujourd'hui à la retraite, a été élu à 43 ans président de la Fédération éthiopienne d'athlétisme pour un mandat de 4 ans. C'est la radio gouvernementale Fana qui l'annonce. Gebrselassie a recueilli 9 voix sur les 15 pour devenir le nouveau président. Je suis honoré d'avoir été élu président de la Fédération éthiopienne. Nous allons travailler un grand avenir pour l'athlétisme éthiopien, a réagi Haïlé Gebrselassie sur son compte Twitter. On rappelle qu'il est double médaillé d'or olympique sur 10 000 mètres aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996, puis Sydney en 2000.
Le tennis masculin a un nouveau numéro 1 mondial.
Oui, le Britannique Andy Murray est devenu hier le numéro 1 mondial, détrônant ainsi Novak Djokovic, qui occupait cette position depuis juillet 2014. A noter également que Roger Federer quitte le top 10 pour la première fois depuis 14 ans. Andy Murray, vainqueur à Paris-Bercy dimanche de son 4e tournoi d'affilée après Pékin, Shanghai et Vienne. Il est à 29 ans, le 2e joueur le plus âgé à atteindre la tête du classement. Djokovic, lui, tombe de son piédestal après 122 semaines de règne ininterrompu sur l'ATP. Enfin, Idrissa, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Utah 109, Philadelphia 84, Houston 114, Washington 106, Indiana 100, Charlotte 122, Orlando 80, Chicago 112, Miami 85, Oklahoma City 97.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Parmi les autres nouvelles, en Côte d'Ivoire, les fonctionnaires vont observer à partir d'aujourd'hui une grève de 72 heures pour dénoncer une réforme des retraites qui baisse les pensions de 30 à 50%. Précision de Nani Talani.
Les grévistes protestent contre une réforme intervenue en 2012, mais dont les premiers effets se font sentir cette année avec la mise à la retraite des fonctionnaires touchés par cette loi. Elle fait passer l'âge de la retraite de 55 à 60 ans, voire 65 ans pour les plus gradés. Les cotisations augmentent de 6 à 8,33% du salaire, alors que les pensions ont été réduites de 30 à 50% selon les catégories. Par exemple, un professeur d'université de grade A7, le plus élevé dans la fonction publique, qui touchait 950 000 francs CFA comme pension de retraite, est à 450 000 francs CFA, explique Théodore Nyanyazadi, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public, qui regroupe 50 syndicats. Selon lui, il s'agit d'une grève d'avertissement de 3 jours qui va se durcir si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Les instituteurs ivoiriens visés par cette réforme ont donné le ton hier avec un débrayage d'une semaine qui est largement suivi.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, les ONG apprennent des métiers aux ex-enfants soldats au Sud Kivu. Pour les rendre économiquement indépendants, ces efforts se font en collaboration avec l'UNICEF et autres partenaires. L'un des grands défis à relever après les conflits armés qui ont ravagé la région reste la réinsertion de milliers d'enfants impliqués malgré eux dans ces violences. De Bukavu, notre correspondant Ernest Muhero.
Le guerre et conflits armés multiples en RDC ont créé depuis 1996 une catégorie d'enfants incorporés des forces au sein des milices et même des forces armées de la RDC, selon le lieutenant-colonel Floribert Mufungizi, commandant du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale au sein de l'armée au Sud Kivu, 20 ans après.
Les FRDC n'ont pas des enfants dans leurs forces, mais ces enfants peuvent provenir de différents groupes armés. Quand il y a un groupe qui veut quitter et pour s'intégrer, à ce moment-là, il y a une équipe de vérification. Et une fois cet enfant confirmé mineur, on le prend, on le met sous contrôle d'une organisation pour son insertion.
L'ONG Bureau pour le volontariat au service de l'enfance et de la santé BVS prévient depuis plus de 20 ans le recrutement et l'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés. Mouraba Zinamegabe, directeur d'IBVS.
On est entre 45 000 et 50 000 enfants sortis des forces et groupes armés au cours des 15 ans passés et parmi et 9 737, dont 1048 filles.
Un ex-enfant soldat de 14 ans, encadré depuis 2015 au BVS, explique le calvaire qu'il a traversé.
Il m'avait attrapé alors que je faisais la chasse pour survivre. Aussitôt, ils m'ont exigé de prendre leur portion magique et intégrer le groupe, sinon ils me tuaient. Je n'avais pas le choix, mais la vie des soldats était très dure pour moi. On fait des choses pas correctes. Au final, je me suis échappé. Ensuite, l'armée m'a récupéré. Et le BVS m'a réclamé et m'a amené ici où l'on s'occupe de moi. Je souhaite vraiment faire des études et travailler dans mon village. Qui sait, peut-être je serai un enseignant ou un médecin.
Mouraba Zinamegabe de BVS explique.
La plupart des enfants viennent dans un tableau de sauvagerie terrible. Et après, on va commencer des programmes d'accompagnement psychosocial. On a des enfants qu'on doit amener à l'hôpital pour les soins médicaux. Les filles, on doit les envoyer systématiquement parce que 100% ont été d'esclaves sexuels. Un travail extrêmement complexe pour en faire encore des enfants, des familles ou des communautés.
Ces drames des enfants privés de leur enfance est aussi une priorité de la Fondation Solidarité des Hommes. Son directeur exécutif pays, Fernando Wankana, explique.
Nous soumettons à 4 mois de stage professionnel et après, on passe à un placement. Par exemple, dans la ville, la mécanique auto, la coupe et couture, nous avons l'agistage, la maçonnerie, la coiffure, l'informatique, la pâtisserie.
Ephraim Mukungu, un ex-enfant soldat devenu mécanicien.
J'ai choisi d'apprendre la mécanique. J'ai eu un job dans un garage qui me permet de m'organiser. Je vis de plus en plus mieux parce que surtout je n'ai plus la peur en permanence.
Ernest Mouero Bukavu, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Burundi, les transports doivent s'acquitter d'une somme variant entre 1 et 13 dollars par mois. La mesure s'applique dès ce mois-ci, mais des pénalités seront appliquées prochainement pour les contrevenants. Pour les transporteurs, la facture est lourde puisque cette nouvelle taxe s'ajoute aux municipales. Explication de Christophe Kourounziza à Bujumbura.
Aux heures de pointe, au centre-ville de Bujumbura, l'endroit où était érigé l'ancien marché central, taxis, voitures, bus de transport et d'autres voitures poids lourds affluent vers cette place, causant souvent des embouteillages. Pour le parking à cette place, qui est la plaque tournante des commerçants et hommes d'affaires, il faudra payer, mais pas uniquement pour le centre-ville. Cette mesure concerne d'autres places où des parkings seront construits à cet effet. Cette mesure pour les parkings payants prend effet à partir de ce mois de novembre, tel que l'a annoncé le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mboni.
On référera sur la gestion des autres villes dans la sous-région et dans le monde entier. La mairie a pris une décision de faire payer le droit de passage et le parking. C'est une innovation et nous pensons que ça va servir pour l'intérêt de la mairie et aussi pour l'intérêt des usagers. Il y a des options, le transport rémunéré et le transport non rémunéré. Pour ce mois de novembre, on ne va pas appliquer les pénalités. En ce qui concerne le transport non rémunéré, on va attendre une organisation propre à ce transport non rémunéré.
Le maire de la ville indique que les montants à payer ne sont pas exorbitants car les transports rémunérés font d'énormes rentrées journalières d'argent.
Pour un vélo, c'est moins de 66 francs par jour. Moto, c'est moins de 166 francs par jour. En taxi, 500 francs par jour. En quaster, 1000 francs. Une remorque payée moins de 3500 par jour alors qu'il fait une business de plus de 5 millions par jour. On a essayé de tenir en considération tout ça.
Les transporteurs de voitures demandent d'abord une consultation avec les autorités municipales avant que la mesure ne soit effective. Ces propriétaires d'un bus de transport à Bujumbura affirment que les taxes deviennent insupportables.
On ne peut pas travailler à perte, sans intérêt. On paie de l'argent pour beaucoup de documents. Contrôle technique, la taxe municipale, les documents du bus et payer aussi ses 500 francs par jour. En plus de cela, on paie une somme de 21 000 francs. Le transporteur ne pourra pas avoir toutes ces sommes.
Cet autre transporteur indique qu'il arrive que son bus de transport soit en panne, mais que la mairie continue à demander de l'argent quotidiennement.
On demande au maire de la ville de trouver des solutions à certaines difficultés qui surviennent fréquemment. Il arrive que le bus soit en panne. Il peut faire un mois dans un garage. À ce moment-là, où allons-nous trouver l'argent pour payer? Nous payons également d'autres documents administratifs. Nous sommes incapables de trouver cet argent.
Depuis plusieurs mois, le maire de la ville de Bujumbura a initié des programmes pour rendre la ville propre et sécurisée. Cette mesure de parking payant va dans ce sens, selon le maire de la ville, Freddy Monima. Christophe Kourounziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Somalie, de nouveaux combats dans la ville de Galkayo entre forces de deux régions, le Puntland et le Galmudug, autoproclamés semi-autonomes du Nord. Ces tensions ont commencé en septembre à la suite d'une frappe américaine visant des islamistes Shebab. Pour y voir plus clair, Eric Manirakiza a joint à Nairobi au Kenya Laetitia Batter de Human Rights Watch en Somalie.
Dans le nord de Galkayo, la ville est administrée par la région du Puntland. Et dans le sud, elle est administrée par une nouvelle administration de Galmudug. Donc ça, c'est une nouvelle région qui a été créée l'année dernière lors du processus de fédéralisation de la Somalie. Ce qui se passe à Galkayo, c'est pas un nouveau conflit, c'est en fait des divisions entre deux des plus grands clans du pays, en fait, qui datent des décennies. C'est des divisions et c'est des problèmes qui n'ont toujours pas été réglé par les processus internationaux, etc. L'année dernière, il y avait déjà eu des confrontations meurtrières entre les milices de Galmudug et les forces et les milices du Puntland. Puntland est dans une situation administrative assez différente parce que depuis la moitié des années 90, en fait, la région du Puntland était déjà une administration autoproclamée et qui gérait sa région de façon assez différente que le reste de la Somalie. C'est quand même une région qui est beaucoup plus établie que la région de Galmudug qui a été créée l'année dernière.
Les djihadistes Shebab sont très actifs en Somalie. Est-ce qu'ils sont présents aussi dans cette région?
Deux ou trois semaines avant que le conflit a repris à Galkayo en octobre, on avait vu un attentat significatif qui a été proclamé par Al-Shabaab, même s'ils n'ont pas contrôle du territoire à Galkayo, ils ont une présence importante des deux côtés, aussi dans le Galmudug.
Et dans la Somaliland, c'est calme là-bas?
La Somaliland est quand même une région qui s'est proclamée indépendante, mais dont l'indépendance n'est pas reconnue par la communauté internationale. Là, il y a un contexte assez différent. Depuis les années 90, en fait, il y a eu tout un processus de réconciliation dans le Somaliland qui a créé un État qui travaille plus ou moins bien, une administration, il y a eu des élections. Une région qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus sûre que beaucoup des autres régions de la Somalie.
Laetitia Bader de Human Rights Watch, fin de cette édition, au micro Idrissa Seydoudia. Merci de nous avoir suivis.